Vous écoutez On lit pour vous.
Votre rapport au travail a-t-il changé? Un texte d'Alain Gosselin paru le 7 juillet 2026 dans la presse. Depuis la pandémie, nombreux sont ceux qui estiment que notre rapport au travail a évolué. Cette pause involontaire a amené bien des personnes à réfléchir à la place qu'occupe le travail dans leur vie. Et vous, quelle place lui accordez-vous aujourd'hui? Si l'Auto-Québec faisait de vous une personne à l'aise financièrement, continueriez-vous à travailler? Pouvez-vous concevoir votre vie sans travail? Répondre à ces questions vous oblige à réfléchir à votre rapport au travail. Il s'agit d'une construction personnelle de la centralité du travail dans ses vies, des attentes ou des motivations à l'égard de celui-ci et de l'investissement que l'on est prêt à y consacrer. Pour certains, le travail reste à la marge et répond avant tout à des besoins matériels ou de sécurité financière. Pour d'autres, leur travail les définit, car il représente une occasion de se réaliser et de donner un sens à leur contribution. Notre rapport au travail peut être transformé par un événement significatif qui remet en question la place qu'il occupe dans notre vie. La pandémie en est un exemple marquant. Exceptionnelle par sa durée, le confinement qu'elle a entraîné et son caractère collectif, elle a créé un contexte propice à l'introspection et amené de nombreuses personnes à revoir leurs priorités. Plusieurs observateurs soulignent que la pandémie a laissé des traces durables. Cette période est reconnue pour avoir accéléré certaines tendances, déjà bien amorcées, dont le travail à distance et les réunions virtuelles. Elle a aussi amené de nombreuses personnes à clarifier et à consolider des attentes et des comportements déjà en émergence. Une recension des écrits publiés au cours des dernières années révèle une forte convergence de ce qui compte vraiment dans la vie professionnelle des gens aujourd'hui. Les 6 constats qui suivent sont ceux qui reviennent le plus fréquemment, sans ordre d'importance. Dans quel constat vous reconnaissez-vous le plus? En parcourant cette liste, repérez et marquez d'un crochet mental les énoncés qui correspondent le mieux à votre positionnement actuel. Pour faciliter l'exercice, les énoncés sont formulés au « je ». Vous pourriez ensuite poursuivre la réflexion avec des collègues ou des proches. Leur point de vue pourrait enrichir le vôtre. Retrouver un meilleur équilibre. Aujourd'hui, l'équilibre travail-vie personnelle est devenu non négociable. Ma famille, ma santé et mes relations occupent désormais une place aussi importante que mon travail. Je souhaite réussir sans sacrifier mon bien-être ni vivre sous une pression constante de performance. C'est à cette condition que je peux donner le meilleur de moi-même. Préserver ma flexibilité. J'apprécie toujours les défis, mais je tiens à préserver une marge de manœuvre dans l'organisation et l'accomplissement de mon travail. La possibilité de choisir quand, où et comment je travaille influence désormais plusieurs de mes décisions professionnelles, y compris l'acceptation de nouveaux postes. Cette autonomie me permet de concilier mes responsabilités et de travailler avec plus de sérénité. Continuer d'apprendre et de me développer. Il est important pour moi de réaliser mon plein potentiel. Je veux avoir accès à des occasions d'apprendre et de déployer mes compétences. Mon travail doit m'offrir non seulement des défis, mais la possibilité de laisser une empreinte positive grâce à une expertise solide et transférable. Continuer de la renforcer nourrit ma motivation. Me sentir reconnu. Les résultats demeurent importants, mais j'ai aussi besoin de sentir que mes efforts et ma contribution sont appréciés. Les marques tangibles de considération de mes collègues, de mes clients et de mon gestionnaire renforcent mon engagement et rendent mon travail plus stimulant et gratifiant. La reconnaissance donne du sens à mon engagement. Contribuer à un travail qui a du sens. Avant, j'étais animé par un désir de progression et l'atteinte d'un statut social. Je ne mesure plus ma réussite par les promotions, des responsabilités accrues ou le prestige. Je souhaite avant tout faire une différence et me sentir utile socialement. Contribuer à quelque chose qui dépasse mes intérêts personnels est devenu une source de motivation profonde. Être en cohérence avec qui je suis. Je ne cherche plus seulement un travail intéressant. Je veux un travail qui me ressemble. Je souhaite que mes choix professionnels soient alignés avec mes valeurs, mes talents et mes intérêts. Quand mon travail est en accord avec qui je suis, je me sens à la fois plus authentique, plus libre et plus engagé. Les transformations technologiques, dont l'essor de l'intelligence artificielle et les aspirations de nouvelles générations, ont la capacité de redéfinir, encore une fois, notre rapport au travail. Il est encore tôt pour savoir où cette évolution nous mènera. Est-il possible que le travail perde carrément de l'importance et devienne un moyen parmi d'autres de construire une vie riche de sens? Le véritable changement à venir ne réside peut-être pas dans la place qu'occupe le travail, mais dans la façon dont nous définissons aujourd'hui une vie réussie. C'était « Votre rapport au travail a-t-il changé? » Un texte d'Alain Gosselin paru le 7 juillet 2026 dans La Presse.
Parlons de radio. Extrait d'une chronique de Mario Girard parue le 15 août 2026 dans La Presse. Ces tics qui nous énervent. On fait souvent état de la qualité du français dans les médias parlés, moi le premier. Mais au-delà de ça, il y a les tics de langage des animateurs, des chroniqueurs et des invités qui peuvent être très agaçants. Ces béquilles deviennent une obsession pour qui les entend à répétition. Il y a évidemment les fameux « eux » que certains saupoudrent allègrement, puis l'incontournable « écouter » à chaque début de réponse. Le classique, en fait, est toujours en vogue. À cela s'ajoute l'incontournable « tout à fait ». Ces dernières années, on a vu apparaître les « J'aimerais vous dire » et « J'ai envie de vous dire ». Ne nous dites pas que vous avez envie de dire quelque chose, dites-le. J'ai aussi remarqué que la jeune génération a adopté l'expression « dans le fond ». Finalement, les « effectivement »,« genre », »,« tout ça » et « donc » demeurent très populaires. En attendant d'adopter le fameux « du coup », de nos cousins français, ce qui ne saurait tarder, travaillons aussi sur la prononciation. Être optimiste, c'est possible, j'accepte l'hymne national, les arbres, le ministre, le chef d'orchestre, quatre valises, plus capable d'entendre ça. L'âge des auditeurs. Dans son dernier rapport sur les habitudes des Québécois en matière de loisirs culturels et de divertissement, l'Institut de la statistique nous apprend que c'est à partir de 30 ans que l'écoute de la radio devient importante. Mais qu'en est-il de l'âge moyen des auditeurs par station? J'ai obtenu ces données qui font état de l'âge moyen, pondéré, des auditeurs pour les grandes stations montréalaises. Il faut savoir que les auditeurs qui écoutent plus longtemps ont plus de poids. Ici musique, 67 ans. Ici première, 59 ans. 98,5, 53 ans. Rouge, 51 ans. Rythme, 49 ans. Énergie, 43 ans. Cube, 43 ans. C'est quoi? 42 ans. BPM Sport, 32 ans. La grande question, est-ce que ces radios proposent une programmation à l'image de ces profils? Pour en finir avec les publicités criardes, j'écoute régulièrement des radios privées françaises comme RTL, Europe 1, RFM ou Nostalgie. Et je me pose souvent la même question. Comment arrive-t-il à créer des publicités efficaces qui ne cassent pas les oreilles? En France, on a recours à de belles voix feutrées qui vantent des produits sans musique tonitruante. Chez nous, les radios privées continuent de diffuser des publicités assourdissantes avec de la grosse musique et des voix de muffler. Calmez-vous la trompette, s'il vous plaît. Vivement un changement de ton de la part des annonceurs, des agences de publicité, des boîtes de production et des diffuseurs. Ce n'est pas le nombre de décibels qui nous fait acheter un produit, c'est la qualité du concept. Et des voix riches et veloutées qui font rêver. Je propose qu'à partir de maintenant, les annonceurs engagent Émilie Bibeau, Élise Guilbeault, Emmanuel Schwartz et Guy Nadon pour faire toutes les publicités québécoises. C'était « Parlons de radio », extrait d'une chronique de Mario Girard parue le 15 août 2026 dans la presse.
Éphéméride, un regard sur l'histoire. C'est arrivé un 4 septembre. En 1781, fondation de Los Angeles. Un groupe de colons espagnols fonde une petite implantation baptisée El Pueblo de Nuestra Señora la Reina de Los Ángeles, à l'origine de l'actuelle ville de Los Angeles. Ce modeste établissement rural deviendra, au fil des siècles, la deuxième ville la plus peuplée des États-Unis. Elle abritera notamment l'industrie cinématographique de Hollywood, qui rayonnera dans le monde entier. Cette fondation marque les débuts de l'un des centres urbains les plus influents de la culture mondiale. C'était Éphéméride, un regard sur l'histoire. C'est arrivé un 4 septembre.
Mieux vivre avec les bouffées de chaleur. Un texte de Catherine Hanfield, paru le 8 juillet 2026 dans La Presse. Pour bien des femmes, l'été est synonyme de bouffées de chaleur. Comment les gérer? Entrevue avec la docteure Emily Brander, gynécologue obstétricienne au CHU Sainte-Justine, qui soigne aussi des femmes plus âgées. À quoi sont dues les bouffées de chaleur liées à la ménopause ou à la périménopause? À mes patientes, je l'explique comme un des symptômes du sevrage d'œstrogène. Pendant la périménopause, il nous reste de moins en moins de bons ovules et chaque fois qu'on ovule, de moins en moins d'œstrogène est produit. La durée de cette transition varie d'une personne à l'autre, et certaines personnes sont plus sensibles également. Les changements dans les taux d'œstrogène se font sentir partout dans le corps. Cœur, cerveau, os, muscles, articulations, peau, digestion, utérus, ovaires. Dans le cerveau, des structures gèrent la régulation de la température et la cascade d'hormones change le thermostat. La zone de confort, celle dans laquelle le corps est capable de gérer la chaleur, devient plus mince. Est-ce que c'est pire l'été? Oui. En été, on dépasse plus rapidement cette mince région que le corps est capable de gérer. Avant de parler de médication, quels sont les meilleurs trucs pour gérer les bouffées de chaleur? On veut diminuer la température au cerveau le plus rapidement possible. On peut donc mettre des compresses d'eau froide sur le cou, sur le front, et là où passent de gros vaisseaux sanguins proches de la peau, comme l'aisselle ou l'aine. On peut aussi prendre une douche froide, évidemment. L'air devrait aussi pouvoir circuler, donc porter des vêtements qui respirent bien et qui ne retiennent pas la chaleur. Et si les bouffées surviennent pendant la nuit, quoi faire? Des femmes vont choisir des draps qui respirent, en coton par exemple. On peut aussi se couvrir par couches qu'on peut enlever au besoin. Des patientes me disent aussi qu'elles placent sous leur oreiller un sac de glace emballé dans un sac à glissière de type Ziploc. Et dès qu'elles ont une bouffée de chaleur, elles tournent l'oreiller pour se rafraîchir. On peut aussi avoir un ventilateur ou un air climatisé qu'on peut contrôler à l'aide d'une télécommande de son lit. En matière de traitement, maintenant, quelles sont les avancées? Est-ce qu'on soigne mieux les bouffées de chaleur qu'avant? Je pense que oui. Auparavant, on avait juste les oestrogènes et progestérone non bio-identiques, donc moins comme les hormones humaines. On a désormais plusieurs options, formulation et voie d'administration pour l'oestrogène, ainsi que de la progestérone bio-identique en comprimé. De plus, on a maintenant des molécules qui ne sont ni de l'oestrogène ni de la progestérone, mais qui touchent le récepteur qu'il faut, les modulateurs sélectifs des récepteurs aux oestrogènes. On a aussi des traitements qui agissent comme la testostérone, la progestérone et l'oestrogène, et qui aident aussi avec la libido, tibolone. À quel moment faut-il consulter pour les bouffées de chaleur? Devrait-on les endurer jusqu'à un certain point? C'est une question personnelle à chacune. Une femme qui travaille à la télé, par exemple, pourrait trouver très difficile d'avoir une bouffée de chaleur de 5 minutes par jour. D'autres personnes disent « Mais non, je travaille dehors. Si j'ai chaud, je me mets à l'ombre, puis c'est correct. » Donc, ça dépend de l'impact des bouffées de chaleur, de leur fréquence, de leur durée, des conséquences sur le sommeil. Si votre qualité de vie en souffre, consultez. Peut-on apaiser les bouffées de chaleur en modifiant ses habitudes de vie? Sport, alimentation, sommeil, gestion du stress? Oui, il y a toujours une modification du style de vie avant chaque traitement, bien que la plupart de mes patientes l'ont déjà essayé avant de me consulter. Donc, gestion du stress, méditation, exercice, diminution de l'alcool. C'est aussi une bonne chose de contrôler son poids le plus possible pour éviter le diabète, la résistance à l'insuline et l'hypertension. Ça fait de soi une bonne candidate pour l'hormonothérapie. Combien d'années en moyenne les bouffées de chaleur durent-elles? Tout ça a une fin? Oui. Jusqu'à 80 % des femmes auront les symptômes primaires. Bouffées de chaleur, sueur nocturne, sécheresse vaginale, 2 ans avant et 2 ans après la ménopause. Mais évidemment, il y a des personnes hors de ça et d'autres symptômes, douleurs aux articulations, insomnie, brouillard cérébral, etc., vont souvent durer plus longtemps que ces 4 années entourant la ménopause. Mais pour la plupart des femmes, Après 5 ans, les symptômes sont plus faciles à gérer. C'est rare que quelqu'un ait des bouffées de chaleur intenses 5 ans après la ménopause. C'était « Mieux vivre avec les bouffées de chaleur », un texte de Catherine Hanfield, paru le 8 juillet 2026 dans La Presse.
Éphéméride, un regard sur l'histoire. C'est arrivé un 5 septembre. En 1793, début de la Terreur en France. La Convention nationale française instaure des mesures répressives radicales destinées à combattre les ennemis intérieurs et extérieurs de la Révolution, marquant le début officiel de la période dite de la Terreur. Cette phase de la Révolution française sera marquée par des milliers d'exécutions, notamment par guillotine, orchestrée sous l'autorité de Robespierre et du Comité de salut public. Elle prendra fin près d'un an plus tard avec la chute de Robespierre. Cette période reste l'un des épisodes les plus sombres et les plus étudiés de l'histoire révolutionnaire française. C'était Éphéméride, un regard sur l'histoire. C'est arrivé un 5 septembre.
J'ai choisi de ne pas allaiter pour des raisons politiques. Un texte de Camille Tremblay, paru le 17 juin 2026 dans Urbania. Nos convictions ont-elles leur place dans notre parentalité? Et si le fait d'enfanter et d'allaiter, ça m'éloignait de mon but d'offrir un modèle de famille égalitaire? Telle fut ma réflexion, alors qu'enceinte, je suis un cours sur les approches féministes. C'est là que j'ai entendu parler pour la première fois du concept de travail domestique, soit toutes les tâches non payées qu'une personne, souvent les femmes, fait pour assurer la survie de sa famille. La cuisine, le ménage, le lavage, les rendez-vous médicaux, etc. À l'époque, ce concept avait fait germer une réflexion en moi sur le type de parentalité et de coparentalité que je souhaitais vivre. Partage équitable des rôles et des tâches. Quand j'étais enceinte, je me souciais peu de comment j'allais nourrir mon enfant. Je me disais que j'essaierais l'allaitement, mais que je ne m'acharnerais pas si ça ne fonctionnait pas. J'ai quand même cherché à me renseigner, en lisant des articles dans Naître et grandir. J'écoutais des balados, je suivais des pages Instagram de professionnels et professionnelles. En m'informant du rôle du parent non allaitant, j'ai vu qu'il pouvait faire les changements de couche, rendormir l'enfant, donner le bain, préparer les repas, etc. C'est à ce moment que j'ai pris 2 minutes pour m'imaginer nourrir mon enfant plus de 8 fois par jour et cependant au moins 20 minutes, parfois 1 heure, c'est selon. Déjà, je pouvais sentir le mercure de mon thermomètre à ressentiment contre mon chum grimper en flèche. En observant les parents dans mon entourage, je voyais bien que cet équilibre était rompu quand l'un effectuait son retour au travail. Les tâches essentielles à la survie familiale doivent toujours être réalisées. Elles deviennent simplement la responsabilité du parent qui reste à la maison. Ayant déjà le poids de la charge mentale dans mon couple, j'éprouvais plusieurs craintes concernant l'allaitement. J'avais peur que nos rôles et responsabilités se cristallisent et deviennent un piège dans le futur de notre famille. En gros, j'avais peur de devenir le parent par défaut, soit la source de réconfort primaire de mon enfant. Je me demandais aussi quelle place il y aurait pour mon chum dans cette dyade mère-enfant? Me définir autrement que par mon statut de mère. La maternité a toujours été un sujet épineux pour les féministes. Si, pour certaines, il s'agit d'une source d'empouvoirment, pour d'autres, il s'agit d'une contrainte à l'épanouissement personnel. Historiquement, et même actuellement, si on pense au mouvement Tradwife, les femmes ont souvent été réduites à leur biologie, les obligeant à restreindre leur activité publique pour se concentrer sur le bien-être de la maisonnée. En tant que personne féministe, l'allaitement représentait pour moi l'obligation d'être constamment avec mon enfant. D'une part, il risquait de limiter mon temps pour moi et mes propres activités, et de l'autre, il restreindrait mes déplacements et la possibilité que je participe à divers événements afin d'accommoder les besoins de mon enfant et de gérer mon énergie. Si certaines y parviennent, je voyais mal comment maintenir un équilibre entre les ajustements que demande l'allaitement avec les autres facettes de ma vie. Je tenais à exister dans mon individualité, malgré mon enfant. Et je savais qu'en ne respectant pas ce besoin, c'est moi et ma famille qui allions en payer le prix. Choisir le bien-être de la famille en entier. En partageant mes réflexions et mes inquiétudes à mon chum, il m'a avoué qu'il ne tenait pas vraiment à ce que j'allaite. Il voulait surtout être présent à part égale dans toutes les dimensions de la vie de notre enfant. Pour nous, le choix de ne pas allaiter faisait du sens. On a aussi divisé le congé parental à parts égales pour nous permettre de développer une relation avec notre enfant, ainsi que nos rôles et réflexes parentaux. Et avec le recul, on est fiers d'avoir fait ce choix pour notre famille. En ce moment, je suis enceinte de mon deuxième. La question de l'allaitement m'est revenue en tête. La décision n'est pas encore prise puisque mon chum et moi comptons réévaluer la situation en tenant compte de notre dynamique familiale actuelle. Même si les bienfaits de l'allaitement nous sont présentés très tôt pendant la grossesse, je suis d'avis que l'allaitement a une implication sociale et politique. Ça devrait toujours être le choix de la famille, en incluant également les avis des deux parents. C'était « J'ai choisi de ne pas allaiter pour des raisons politiques », un texte de Camille Tremblay, paru le 17 juin 2026 dans Urbania.